Bonsoir, merci d'être là avec nous pour cette rencontre donc avec deux créateurs de bande dessinée, donc Olivier Texier et Johan. Merci messieurs de ne pas être au bar avec les autres.
Et bonsoir Gilles et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, nous avons invité ces deux jeunes gaillards pour nous parler d'un album assez incroyable en fait. Donc, ça s'appelle donc les Captains.
C'est ça.
On a envie de rajouter.
Et non pas les Captains Z, comme certains ont tendance à prononcer. La bonne prononciation, sachez-le, c'est Captains.
Et je vous invite à, je dirais, à découvrir cette bande dessinée, cet album, parce que. Au premier abord, on se dit, tiens, ils se sont amusés sur quelque chose de chatoyant et peut-être jeunesse. Et finalement, non. Finalement, c'est une bande dessinée quand même qui est destinée à un public plutôt adolescent, adulte, avec presque deux sens de lecture, je dirais presque.
Il y a plusieurs niveaux de lecture, mais moi, c'est quand même officiellement une bande dessinée grand public, puisqu'elle est parue dans le journal de Spirou, qui est quand même le magazine de bande dessinée le plus grand public
qui
existe dans le monde de la bande dessinée.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait, comment vous avez travaillé ensemble? Alors, je sais que vous êtes accessoirement tous les deux de Nantes, donc ça peut aider. Mais racontez-nous un peu comment s'est née cette folle aventure des Captains.
Eh bien, en fait, c'est tout le contraire de quelque chose de réfléchi, de posé, où on s'est dit, tiens, on a un projet qu'on va soumettre à un éditeur. Ça s'est vraiment fait. En fait, c'est à une époque où on avait créé une sorte de club des amis de la bande dessinée. On était quelques auteurs nantais bien avant, c'était il y a 10 ans, c'était bien avant que Nantes soit infestée d'auteurs de bande dessinée. Parce que sachez-le, à Nantes, maintenant, quasiment dans chaque rue, il y a un auteur de bande dessinée qui est installé. Donc la ville est vraiment, je pense qu'on va devenir la capitale.
C'est la ville de la bande dessinée, on peut dire.
Ça va devenir la capitale de la bande dessinée, mais c'est officieux. Il ne faut pas qu'Angoulême le sache. Et donc il y a 10 ans, avant qu'il y ait tous les copains qui viennent s'installer ici, on était une bande de copains auteurs de bande dessinée. Donc moi, j'étais vraiment débutant. J'étais très fier de pouvoir venir à ce club de la bande dessinée. En gros, c'était un repas le jeudi midi dans une petite gargote nantaise où on prenait le temps de manger ensemble, de discuter. Et puis, c'est vrai qu'auteur de BD, c'est un métier très solitaire, donc c'est quand même très agréable d'être avec des gens qui font le même métier une fois par semaine, parler des planches, parler des projets, et puis accessoirement dire des grosses conneries. Donc on était là, on mangeait, et puis on se gossait, et notamment on se gossait des gens qu'on voyait passer dans la rue le jeudi midi, et certains étaient franchement ridicules.
Il n'y en a aucun de vous, n'était dans la rue à ce moment-là, je vous rassure.
Ouais, j'en suis pas sûr, mais bon, a priori, bon, on se moquait un petit peu des gens, notamment un peu hors normes, qui pouvaient passer, et puis on se disait, bah tiens, ça c'est Captain Roulette, on voyait une vieille dame qui passait comme ça, tout lentement. Non, c'était une serveuse, elle nous apportait le café, donc tout lentement, elle nous apportait le café comme ça, et puis on disait, bah, elle doit grincer, ça doit être une espèce de robot monté sur des roulettes un peu grinçantes, et donc c'est Captain Roulette, je ne sais plus quoi.
Il y avait Captain Michael Jackson, il y avait un type qui passait en chantant du Michael Jackson toutes les semaines, on disait, Captain Michael Jackson. Donc on imaginait comme ça qu'il pouvait y avoir des êtres qui existaient avec des pouvoirs qui servent à rien,
Coup ça date un peu en fait.
Ça date carrément. Coup, enfin, vous dire, ça date. On était précurseurs, c'est ça que tu veux dire.
Voilà.
On a eu cette idée il y a très longtemps.
Et donc il y avait ça comme base où on était entouré de captains avec des gens comme ça qu'on voyait dans la vraie vie à Nantes où on se demandait bien quel super pouvoir idiot ils pouvaient avoir pour être aussi bizarres. Et puis parallèlement il y avait aussi Johan qui avait développé toute une série de croquis de personnages auxquels il tenait. Donc là on peut voir sur la couverture où c'était des personnages qui existaient à la fois à l'état de croquis et puis avec une idée un peu vague en disant bah tiens ce personnage c'est marrant si c'était un personnage à qui on pourrait pas faire de bisous, mais ça serait quand même un playboy. Du coup, ça devient compliqué, un playboy très beau et très attirant pour les femmes, que si on l'embrasse, il devient une bête surhumaine qui dévaste tout sur son passage. Donc, il y avait, Johan, c'est-à-dire, tu avais une espèce de bestiaire comme ça, de personnages.
Bah, c'est-à-dire qu'à force de voir des gens, des choses comme ça, on se dit, tiens, on commence à inventer soi-même des personnages un petit peu bizarres, c'est-à-dire, oh, ça, on devrait en faire une BD, quoi. Et finalement, bêtement, c'est arrivé que les idées un petit peu idiotes se sont plantées dans mon cerveau malade et ont commencé à germer. Des personnages sont apparus et c'est pour moi souvent comme ça le début d'une histoire. C'est souvent des personnages, des situations cocasses, des trucs qui moi je fais une bande dessinée pour qu'on passe du bon temps et qu'on s'amuse, donc j'aime pas les BD trop sérieuses, c'est pas trop dans mon tempérament. Donc c'est souvent des trucs marrants qui sont au point de départ d'une bande dessinée, et là je me suis dit tiens, imaginons une équipe de super-héros qui ont des pouvoirs nuls, mais il y a que eux pour sauver le monde. Donc qu'est-ce que ça pourrait donner?
Ouais, je vous confirme que le plaisir que vous avez partagé à créer tout ça se sent à la lecture, parce que par exemple on a donc le Capitaine Mystérieux, ça, on va en parler un petit peu de ce héros, super-héros un peu grivois, habillé de pied en cap en latex. Voilà, Capitaine Déprime, Capitaine Bisou, Capitaine Wawa, un chien qui parle. Donc il y en a quelques-uns que vous avez réellement croisé dans la rue à Nantes, alors.
Captain Wawa, oui, parce que j'avais moi-même mon chien, c'était Captain
Walter.
Wawa, ouais, voilà. Ouais, ouais. Sur la fin de ses jours, il était un peu paralytique, alors j'avais fait un exosquelette pour pouvoir le promener.
Donc il y a du vécu.
Il y a du vécu.
Et alors, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont réussir à sauver le monde ou pas, finalement?
Alors, d'abord, ils vont se mettre en coloc.
Déjà, ils vont se mettre en coloc. Voilà. L'idée, c'est de se dire, imaginons ces super-héros qui ont des pouvoirs pas terribles, qui n'ont rien à voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on les met en colocation? Déjà, quand on les réunit pour faire une équipe, un peu comme les X-Men, par exemple. Mais c'est des X-Men un peu tordus, quoi. Donc, avec certains qui ont des pouvoirs un peu antinomiques. Donc Captain Bisou, c'est un playboy... c'est un playboy, donc c'était un type qui faisait les couvertures des magazines à Scandale, Paris Match, etc. C'était une espèce de star qu'on voyait tous les mois au bras d'une nouvelle starlette ou d'un nouveau top model, qui un jour se retrouve à draguer la mauvaise personne, notamment une espèce de princesse vaudou qui lui jette un sort. Le sort, c'est que dès qu'il embrasse ou qu'il se fait embrasser par une femme, il se transforme en une espèce de Hulk rouge et il pète tout et il tue tout le monde. Donc c'est effectivement très, très embêtant quand on est un playboy un petit peu obsédé de séduction comme ça. Et donc il perd complètement pied, il devient clodo, il se cache dans les rues pour pas... Il se dégrade, il se rase plus, il est sale, de manière à plus créer de contact avec les femmes, quoi, parce qu'il reste très éloigné. Mais il a malgré tout... malgré lui, un sex appeal très très important, ce qui fait qu'il est toujours confronté malheureusement à une femme qui voudrait le secourir, le sortir de son marasme. Et il va se retrouver en colocation avec Captain Déprime, qui elle est une femme et qui a le pouvoir de déprimer les gens par la pensée, de les conduire au suicide. Mettons qu'elle a une engueulade avec l'un de vous, ah, tout d'un coup vous allez vous sentir mal, vous allez avoir des envies, d'une espèce de nausée, envie de vous jeter par la fenêtre, envie de vous pendre. Il ne faut jamais se fâcher avec Captain Déprime. Et elle, par contre, elle est amoureuse de Captain Bisou, donc ça va poser quelques problèmes pour la suite de l'histoire. L'idée, c'est d'essayer de trouver des interactions un peu explosives comme ça entre les personnages. Et puis, une menace surhumaine qui vient d'une autre dimension. Et là, je laisse Olivier en parler un petit peu plus.
Donc voilà, donc tous ces personnages en fait n'ont pas, là ils n'ont pas les moyens de professeur Xavier qui lui a les moyens de s'acheter un immense manoir pour mettre tous ces mutants à l'abri. Eux donc ils font une colocation dans une espèce de loft comme ça un petit peu en banlieue, et tous ces super-héros improbables sont obligés de cohabiter avec plus ou moins de mal pour essayer de faire le moins de dégâts possible. Et ils sont un petit peu emmenés donc par Captain Wawa, qui est un chien dans un exosquelette robotique, et donc l'idée c'est qu'en fait il y a des apparitions comme ça un peu inopinées de monstres tentaculaires qui apparaissent un petit peu au hasard, au petit bonheur la chance dans la ville, qui dévastent absolument tout sur leur passage. Donc à chaque fois nos captains essayent d'aller les contrer et puis de les réduire à néant, et donc Captain Wawa, ce chien robotique, est là pour essayer de trouver un petit peu l'origine de ces apparitions mystérieuses. Et donc là, nous, on a jeté un petit peu de physique quantique, un petit peu de monde parallèle dans tout ça, où il essaye de trouver ce qu'il appelle une aberration, donc un être humain qui serait pas vraiment humain, ou qui serait mort et ressuscité, ou quelque chose comme ça. Il essaye de trouver quelque chose qui a créé des passerelles entre les mondes parallèles et qui fait qu'en fait, ces créatures que nous, on considère monstrueuses sont le résultat de l'évolution sur d'autres univers parallèles. L'évolution, au lieu de créer avait des singes qui ont donné des hommes et des femmes comme nous avec un petit peu moins de poils. Voilà, vous avez quelques exemples de singes non poilus devant vous, notamment au niveau du dessus de la tête. L'évolution, au lieu de créer des singes qui se sont un petit peu dépilés, a donné des créatures tentaculaires vertes qui font beaucoup de dégâts, mais qui finalement ne sont pas plus... pas plus idiotes que vous et moi, et qui sont le résultat de l'évolution. Donc voilà, il y a une passoire. Les mondes sont devenus poreux entre eux, et il va falloir trouver l'être, la clé qui fait que les mondes sont devenus poreux les uns avec les autres, et ils vont finir par mettre le doigt dessus. Donc je ne vais pas dévoiler qui est ce personnage, qui ne devrait pas exister sur la planète, mais c'est un personnage très connu. Voilà,
Par exemple, le capitaine Wawa, c'est...
Capitaine Wawa lui-même vient d'une autre dimension.
C'est le pinacle de l'évolution sur sa planète.
La version officielle, c'est qu'il s'est retrouvé lui-même projeté dans notre dimension, alors que dans sa dimension à lui, la guerre de l'évolution a été gagnée par les chiens. Voilà, donc c'est pas des hommes qui peuplent sa planète, mais une race canine évoluée, intelligente, etc. Donc lui-même, c'est un savant sur sa planète, et il arrive de sa dimension sur notre Terre, et son but, c'est de retourner chez lui. Et pour retourner chez lui, il doit trouver la clé dimensionnelle qui a rendu les dimensions poreuses. Et pour ce faire, il décide de rassembler cette équipe de super-héros au pouvoir un peu mal défini, mais qui, au final, devrait lui servir à mettre la main sur cette clé dimensionnelle et enfin lui offrir son ticket de retour sur sa planète.
Sur la planète des toutous à lunettes. Voilà.
Mais là, vous dégommez tout quand même. Il y a une revisitation de la théorie des cordes, une revisitation des super-héros. Donc, c'est les nouveaux super-héros, là, en fait.
Bah oui, c'est des nouveaux super-héros, bien sûr, mais en même temps, j'ai grandi en lisant les super-héros Marvel, Spider-Man, les Vengeurs, Strange, Nova, etc., dans les années 70-80. J'étais un fan des X-Men et tout ça. Donc, évidemment, c'est ma culture complètement, mais avec matinée d'humour à la Gottlieb ou de Franquin ou d'idées noires ou de choses comme ça. Donc, voilà comment on en arrive à faire une BD comme les Captains, sans compter aussi que j'ai commencé à publier mes premières bandes dessinées en Angleterre, dans une revue qui s'appelait Deadline, où je faisais déjà des BD un petit peu punk à l'époque. Donc, les Captains, c'est un peu le fruit de toutes ces influences dans mon travail.
C'est la première fois que vous travaillez ensemble ?
Ouais, c'est la première fois.
Alors là, je suis étonnant parce que je m'attendais à un nom, forcément.
Non. Mais on s'entendait bien, on était bien copains. Moi, je connaissais les bandes dessinées d'Olivier, j'aimais beaucoup.
Il est obligé de se retenir en plus sur ce type de travail.
Disons qu'à la base, moi, j'ai initié la bande dessinée des Captains parce que j'avais l'idée des personnages, j'avais l'idée un peu du contexte, j'avais une trame d'histoire. Mais je suis quelqu'un qui a un humour assez finalement conventionnel. Moi, assez. Si j'écris de l'humour, ça va souvent être un truc où, ça va pas être trop surprenant. Et j'ai quand même conscience de ça, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens. Olivier, c'est quelqu'un qui a un humour complètement décalé, complètement absurde, surréaliste, matinée de Monty Python et des choses comme ça. Et j'avais envie justement d'apporter à ce projet des Captains ce quelque chose d'unique et un ton vraiment différent. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Olivier, qui m'a fait le bonheur d'accepter, de travailler là-dessus. À ce qu'on travaille sur le développement de cette histoire. Et puis, j'ai pas été déçu parce que, évidemment, là, ça donne une bande dessinée super-héros avec des vrais super-héros quand même si c'est des super anti-héros, mais très décalé, quoi.
Et alors, comment ça va se passer, juste pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à, entre guillemets, à ton humour conventionnel et du coup, moi, qui me fait quand même penser à tes travaux, par exemple Spirou, Marsupilami et autres, quand il y a un jeune lecteur de 8 ans qui se dit « je deviens un fan de Johan parce que c'est lui le dessinateur de Spirou » et puis « tiens, il a sorti une nouvelle BD, je vais acheter, papa, achète-moi les Captains
». Oui, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, je ne vais pas parler de moi tellement, mais je suis un dessinateur un peu multifacette. Moi, j'ai commencé à faire de la bande dessinée en Angleterre, des BD un petit peu punk, un peu barré. Ensuite, j'ai fait de la bande dessinée pour enfants, une bande dessinée qui s'appelle Toto l'Ornithorynque, donc une série qui a maintenant 20 ans et dont on va fêter les 20 ans cette année. On va sortir un nouvel album au mois de décembre. J'ai travaillé sur de la bande dessinée de science-fiction chez Delcourt. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé avec Johan Sfar et Lewis Trondheim sur Donjon à une époque aussi. Bon, voilà. Toutes mes influences, elles sont. Je me suis jamais fermé en fait à un genre de bande dessinée. Et effectivement, le lecteur, il est obligé de prendre ça tel quel, quoi. C'est un peu à prendre ou à laisser, mais je pense que c'est pourquoi c'est pas forcément une mauvaise chose de disposer d'un auteur multifacette. Moi, Franquin, par exemple, puisqu'on parlait de Franquin, voilà, je l'ai découvert en tant que dessinateur de Gaston Lagaffe, donc un personnage humoristique, très gaffeur, qui faisait beaucoup de bêtises, c'était des gags en une page. J'ai appris aussi par la suite qu'il avait dessiné Spirou, donc là on était dans l'aventure, très classique, aventure, action, humour, et qu'il avait aussi fait Les Idées Noires. C'est un humour trempé dans la suie, parfois méchant, parfois très angoissé, très angoissant aussi. Et voilà, pour moi, c'était un peu ma référence, Franquin, c'est de se dire, ah bah oui, on peut être un auteur de bande dessinée et pas faire toujours la même chose et d'avoir plusieurs facettes qu'on peut offrir à son public. Moi, je trouve que c'est une richesse. Voilà. Je ne sais pas ce que le petit lecteur en pense.
Non, je pense que c'est moins... Même maintenant, je pense qu'on est plus habitué aussi à changer un petit peu de genre. Et c'est vrai que les bandes dessinées qu'on lisait quand on était plus petit n'étaient pas forcément des bandes dessinées jeunesse. Il y avait peut-être un peu moins d'offres qu'aujourd'hui, où le secteur de la bande dessinée est quand même en pleine évolution, en plein essor, avec énormément de titres. Et puis on a tendance peut-être maintenant un peu à sectoriser, à dire bah, ça c'est pour les 7-8 ans, ça c'est pour les 9-11, les 13-15. Mais finalement, je pense que les lecteurs s'emparent des choses de manière plus libre que ce à quoi on les destine. Et notamment, je pense qu'en bibliothèque, on peut être amené à lire des choses. Et c'est aussi tout le jeu quand on est enfant, à lire des choses qui ne sont pas faites pour soi, qui ne sont pas faites pour notre tranche d'âge, mais qui nous... Voilà, on ne comprend pas forcément tout, mais ça nous ouvre aussi à d'autres horizons. Et c'est vrai que moi, contrairement à Johan, qui a une culture bande dessinée assez classique, avec des super-héros, ou peut-être que tu lisais Spirou quand tu étais jeune, c'est vrai que moi, j'ai lu assez peu de BD, aucun super-héros. C'est-à-dire, j'ai découvert les super-héros quasiment après avoir écrit Captains, où je me suis un peu intéressé notamment à l'univers DC Comics. Mais c'est vrai que moi, mes références étaient plus les Monty Python...
Oui, on perçoit moins DC Comics dans les Captains, quand même.
Merci.
Hein.
Mais voilà, donc moi, c'était aussi l'idée de finalement faire quelque chose d'un genre assez précis, le genre bande dessinée de super-héros, sans forcément avoir toutes les références et tous les bagages derrière, et où on réinvente, on a le plaisir aussi de réinventer quelque chose qui existe depuis 70 ans, qui a été exploré de centaines de manières différentes avec des gens très talentueux, et ceci amusant de réinventer, enfin y compris quand on les a lus comme toi, Johan, c'est vrai que c'est l'intérêt d'un genre comme les super-héros ou comme la science-fiction ou la fantasy. Ou tout ce qu'on veut, ça peut être réinventé de mille manières différentes. Avec, il y a des codes qui sont tellement précis que c'est à la fois un bonheur de suivre ces codes et puis c'est tout aussi jouissif de les détourner, d'en faire autre chose. Et c'est vrai que les grandes BD de super-héros, je pense, sont aussi des choses qui jouent avec le genre pour passer un petit peu à travers les mailles d'un filet qui est assez précis, mais on peut passer à travers et jouer avec tout ça, quoi.
J'étais lecteur de comics et de bandes dessinées américaines quand j'étais gamin. Je m'y suis remis il y a quelques années en raccrochant à l'univers Marvel à travers des grandes sagas comme Civil War, comme je ne sais plus encore, toute la nouvelle vague de comics des années 2000. Et j'ai été harponné tout de suite. J'ai été emmené assez loin. Et puis, très vite, je me suis aperçu que finalement, ça ne se renouvelait pas. C'est-à-dire que ça jouait toujours un peu sur les mêmes systèmes. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'on avait fini une saga, on allait en faire une autre. On allait plonger les personnages, les super-héros, dans une situation encore plus catastrophique, encore plus désespérée. On va en tuer quelques-uns au passage, etc. Ils vont finir par s'en sortir à la fin, mais ils vont y laisser des plumes. Il y en a qui vont avoir des bras en moins, laisser leur pouvoir et tout. Et on va repartir sur un truc encore plus gros et encore plus désespéré après. Et quelque part, moi, j'en avais un petit peu marre de cette escalade d'angoisse et de drama un peu gratuit, je trouve, dans l'univers des super-héros. Et j'avais envie de faire quelque chose de léger et de marrant avec ce truc-là. Et je trouve que super-héros, super-pouvoir et humour, ça fonctionne quand même plutôt bien, quoi. Et voilà, j'espère que... Enfin, on a d'autres projets dans ce sens-là.
On confirme. Et à propos donc de super-héros, ce Capitaine Mystérieux, là.
Captain Mystérieux, vous voulez qu'on parle de Captain Mystérieux ?
De mettre un gars juste entièrement vêtu de latex noir.
Bah ça, je crois que c'est moi. C'est con. L'idée, c'est que.
T'aimes bien dessiner ça, c'est pour ça. Il aime bien ça, dessiner les blousons de
pluie. Vous l'avez croisé dans la rue, il était de latex.
Non. Non, mais l'idée, là, ce qui était rigolo, c'était de se dire que le type, il avait une combinaison qu'il ne pouvait jamais enlever de sa vie, quoi. Il ne peut plus l'enlever. Enfin, je veux dire, voilà, il est dedans et il dort
c'est
avec.
Une sorte de pansement, c'est une sorte de pansement extraterrestre parce qu'il a été voilà, culbuté par une soucoupe quand il faisait de la mobilette quand il avait 13 ans ou 15 ans.
Attends, tu connais la méta-histoire.
Et voilà, il a été culbuté par
un est un peu expliqué, mais c'est vrai qu'il y a une méta-histoire derrière, ouais.
Et donc, c'est une sorte de pansement qu'il ne peut pas enlever. Donc, voilà, ça le maintient en vie.
En fait, oui, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. L'idée, c'est que le type soit rentré d'une fête en mobylette. Il se fait culbuter par une soucoupe volante, donc des martiens. Alors, ils sont emmerdés. Ils disent, zut, il est coupé en deux. Et tout, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, ils ramènent les morceaux dans leur vaisseau et ils le mettent dans une combinaison, comme ça, qui est en fait une combinaison de carnaval sur leur planète. C'est une combinaison pour faire la fête. Donc, ça tire des lasers. Le type, il peut voler, faire des loopings, etc. C'est indestructible, il peut aller très vite et tout ça. Et comme c'est des extraterrestres d'origine un peu insectoïde, la combinaison évolue dans le temps. Donc, si d'autres albums des Captains arrivent, la combinaison de Captain Mystérieux va évoluer aussi de forme et va lui proposer d'autres choses.
Par contrairement exemple, à lui qui évolue pas du tout.
Lui, par contre, il est dedans.
C'est sexuel comme s'il était resté avec voilà, l'âge de 15 ans.
Ça, on le comprend dès les premières pages.
Ouais, voilà, c'est ça. Et mais moi, je trouvais ça drôle du coup de s'imaginer que voilà, sur une planète extraterrestre, cette combinaison là, qui est une combinaison de super héros ici, c'est un truc pour faire la fête et pour faire le carnaval. Alors qu'ici, du coup, ça lui donne des pouvoirs redoutables et on peut pas le tuer. Il peut être piétiné, écrabouillé, broyé. Voilà.
Un jour, on peut espérer avoir le passé, les prémices de tout ça ou.
Bon, qui sait, hein, on est.
Ou même des suites, parce que là, c'est peut-être le début d'une franchise, non?
Peut-être. Tout va dépendre des chiffres de vente.
Donc, vous serez en dédicace, là, sur le festival, d'ailleurs?
En dédicace vendredi, en ce qui me concerne, à 14h.
Ah, moi, je suis co-scénariste, donc en général, les scénaristes ne dédicacent pas, ça se fait pas. Mais.
Tu peux dessiner des robots.
Mais voilà, je peux écrire des mots, ça va me reposer un petit peu d'écrire amicalement, comme ça, au lieu de faire des grands dessins, comme ce que je fais d'habitude quand je dédicace. Mais non, c'est plus Johan qui dédicace les Captains.
Ouais. Olivier est trop modeste, il dessine très très bien. Je vous invite à découvrir son travail.
On l'a vu il y a quelques années, si mes souvenirs sont bons, dans les fameux dessinateurs à moustache.
Quelqu'un qui lui ressemblait, hein. C'était quelqu'un non, de ta famille. Hein.
Pour ceux qui connaissent pas, ça fait partie un petit peu de ce qui se passe à Nantes, avec notamment toute cette profusion d'auteurs de bandes dessinées, c'est qu'on a aussi créé tout un ensemble d'événements, de choses autour du dessin, qui finalement sont nés à Nantes, mais qui commencent à s'exporter, dont le fameux, donc c'est le catch de dessinateurs à moustache nantais, et en fait, on prend les dessinateurs, on les habille en catcheurs avec des fausses moustaches, et on organise des battles comme ça, des combats de catch de dessin le soir dans des bars ou dans des festivals de BD.
Il y a eu une évolution, c'est devenu les matchs de dessinateurs à barbe ou c'est resté à moustache du coup?
Parce que là, on a été exclus du fait de notre barbe, voilà. Mais c'est resté à moustache.
Ouais. On va peut-être monter la fédération des dessinateurs bûcherons barbus. Bûcherons barbus, ça fait des beaux acronymes à ça.
Alors vous aurez compris qu'effectivement, c'est quand même, à la lecture de l'album, on se réjouit du plaisir qu'ils ont pris à le faire. Et ça se sent effectivement dans chaque case, dans chaque bulle, dans chaque texte. On a parlé du temps de ce fameux bar où il y avait ses premières anecdotes. Là, vous avez été obligé, en fait, finalement, de vous restreindre pour faire tout rentrer dans un seul album, en fait. Ou est-ce qu'il y a déjà des histoires prévues? Est-ce qu'il y a déjà une suite peut-être à envisager?
On s'est un peu restreint parce que moi j'ai même retrouvé des scénarios qu'Olivier avait proposés sur des chapitres qui n'ont pas été utilisés. Donc effectivement, quand on fait une bande dessinée en France, en Belgique, notamment au Lombard, le format des albums c'est souvent 46 pages. C'est très compliqué de faire des albums plus longs. Parce que ça coûte plus cher, parce que l'album coûte plus cher, et comme ça c'est un premier album d'une nouvelle série, il ne faut pas que ce soit trop cher pour que le lecteur ait envie quand même de l'acheter et de le lire. Donc on est un petit peu contraint à ce format de 46 pages, ce qui fait qu'on a découpé nos chapitres en 6-8 pages à chaque fois, et on a essayé de tenir, on a été obligé malheureusement d'écrémer parfois certains chapitres qui auraient pu figurer, mais qui finalement apportait rien de plus au final, il venait juste raconter des péripéties en plus. Donc, si éventuellement on doit faire une suite un jour, on inventera une véritable suite aux Captains avec des projections. Quoi.
Et juste, je reviens juste sur la temporalité de l'album. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure que finalement c'était né comme ça de ces rencontres, de ces repas entre auteurs de BD il y a une dizaine d'années où on traitait un peu de Captains les gens autour de nous. En fait, on a commencé à faire l'album il y a quelques années où on a fait plus de la moitié de l'album avec Johan. Et en fait, donc, monsieur a été un petit peu après accaparé par les éditions Dupuis pour faire Spirou. Donc voilà, il y a eu plusieurs albums de Spirou et finalement ça demande un temps fou parce qu'il y a les albums mais il y a aussi tout ce qui va autour, les couvertures de Spirou, les PLV, les séances de dédicaces et finalement c'est un album qu'on n'arrivait pas à finir. C'est-à-dire que Le Lombard et Dupuis font partie de la même, c'est la même maison maintenant et dès qu'Yohan avait une semaine devant lui qu'il aurait voulu se mettre à Captains, on lui disait non, bah fais pas le Captains là, oublie pas que t'as encore 4 couvertures de Spirou à faire pour la semaine prochaine et finalement il y a eu un moment donné où il y a une nouvelle directrice de collection qui est arrivée chez Le Lombard, qui est tombée sur les premières pages, les dizaines de premières pages de Captains, et qui a dit bah, ça quand même, ça serait vraiment dommage que ça ne voit jamais le jour. Et elle a un petit peu fait le forcing pour que l'album vive, et puis pour laisser à Johan un petit peu le temps de respirer pour finir les planches qui restaient à faire. Donc voilà, il est aussi issu d'une temporalité assez particulière en matière de bande dessinée, un album comme ça qui aurait pu rester fantôme, mais qui a réussi à voir le jour. Grâce à la volonté de cette éditrice que je salue et qui a vraiment voulu que ça sorte et qui trouvait ça super comme projet.
Et à quel moment l'éditeur du coup est rentré dans la boucle, je dirais il y avait des planches finalisées.
Alors,
c'était juste quelques idées autour du comptoir.
Ben, c'est-à-dire qu'au départ, moi j'avais cette idée d'histoire en tête. Je ne sais pas si j'en avais déjà peut-être parlé à Olivier. Je savais que je voulais développer ces personnages de Captains et tout ça. Je ne savais pas trop encore chez qui ça irait. Et il se trouve qu'à l'époque, je travaillais à Fluide Glacial. J'avais mes copains à Fluide Glacial, c'était Coyote, Maester, Julien Solé, Goussins, etc. Et il y a eu un changement de direction à Fluide Glacial. Ça a été racheté par un groupe, etc. Donc, ils ont changé les éditeurs. Et certains auteurs de Fluide Glacial se sont plus sentis à leur place dans le journal. Et certains sont partis chez un autre éditeur, notamment Coyote est parti au Lombard avec sa série Little Kevin et avec une autre série qu'il a créée au Lombard. Et il a dit à l'éditeur du Lombard, qui lui a ouvert grand ses portes, évidemment, oh, Coyote, on vous donne un chèque en blanc, qu'est-ce que vous voulez, on vous fait tout ce que vous voulez. Coyote a dit, moi, je voudrais qu'on crée un magazine d'humour et où mes copains puissent venir aussi faire leur bande dessinée. Et j'étais là à ce moment-là, et Coyote, comme c'était un grand copain à moi, me dit, on crée un magazine et tout, d'humour, au Lombard, est-ce que ça t'intéresserait de proposer quelque chose? C'est là que je me suis dit, c'est le moment peut-être de proposer les Captains. Comme j'étais un auteur qui était déjà un petit peu... repéré entre guillemets, que j'étais en plus parrainé par mon copain Coyote, l'éditeur du Lombard à l'époque était ravi que je me présente avec un projet comme les Captains et m'a dit ouais c'est super, en plus il cherchait un petit peu à rajeunir l'image du Lombard, les éditions du Lombard pour rappeler un petit peu c'est l'éditeur c'est l'éditeur de Bob Moran en bande dessinée, c'est l'éditeur d'Olivier Rameau de Dany, c'est l'éditeur d'Achille Talon de Chic Bill, c'est l'éditeur de Ricochet. Donc c'est un éditeur qui a une image un peu vieillotte dans la bande dessinée.
Ça fait le grand écart.
Ça fait un peu le grand écart. Donc ils cherchaient depuis un temps à essayer de rajeunir et de renouveler un petit peu leur catalogue. Et des périodes comme ça, pour des auteurs comme moi, c'est génial parce qu'on peut arriver avec un projet qui nous tient à cœur et trouver une oreille attentive. Et c'est vrai que les éditions du Lombard ont tout de suite répondu « Ok, ouais, c'est super, un projet par Johan, nanana. » Moi, à l'époque, je bossais avec Svar et Trondheim.
Ça, c'était avant qu'il l'ait lu.
Oui, c'était avant qu'il l'ait lu, bien sûr.
Ils ont été encore plus emballés.
Oui, c'est ça. Ouais, après, ils ont adoré encore plus.
Ils
m'ont dit « On vous augmente !» Et voilà comment ça s'est fait. Et donc, effectivement, un magazine est sorti à l'époque, qui n'a pas duré très très longtemps. Il a duré 1 ou 2 ans. Ça s'appelait « Le Strip ». Pour lequel j'ai eu la chance de faire une couverture et donc on retrouvait quelques personnes qui venaient de Fluide Glacial, donc Coyote, Clark, Julien Solé, Maester, je crois, quelques personnes comme ça, plus d'autres auteurs et l'aventure est partie de cette manière-là. Puis un jour, je reçois un coup de téléphone de Fabien Vellman qui me dit, voilà, Johan, Dupuis me propose de reprendre Spirou, Et j'ai pensé à toi pour faire le dessin. Allez hop, c'est parti, on commence demain. Et boum, voilà. J'ai dû laisser mon album des Captains en plan, en me disant, je le terminerai après l'album de Spirou. Et puis, en fait, dès que l'album est terminé, il y a tout de suite une grosse machine qui se met en marche sur Spirou. C'est des planches toutes les semaines, des couvertures à faire, des posters, des dessins pour du merchandising, des décors pour une exposition, des trucs. Et au final, on n'a plus du tout le temps de terminer ces pages-là. Donc tous les ans, je voyais l'éditeur du Lombard qui me disait « Alors, les Captains, c'est mort, on laisse tomber. » Je dis non, on continue. Cette année, je le termine, l'album. Et tous les ans, je disais, cette année, je le fais.
Et quand tu reprends comme ça, t'as pas envie, du coup, de refaire un peu le...
Non, je fais pas partie de ces dessinateurs perfectionnistes qui passent leur temps à s'autocritiquer. Moi, à un moment donné, j'estime que le mieux est l'ennemi du bien et qu'il faut laisser les choses... Voilà. Elles ont été faites dans un mouvement, dans une spontanéité, dans des circonstances. Revenir dessus, c'est un peu s'user, c'est un peu reperdre du temps. Et qu'est-ce qu'on va gagner de plus? Qu'est-ce qu'on va faire de mieux au final? Je n'en vois pas l'intérêt. À un moment donné, il faut accepter aussi un niveau de compétence qui risque d'être un peu meilleur, mais au prix de beaucoup d'efforts et de perte de crédibilité, parce qu'il y a beaucoup d'autres... Enfin, il y a beaucoup. Je connais des auteurs qui sont un peu comme ça, là-dedans, à vouloir recommencer les pages qu'ils ont fait au début. Du coup, ils prennent beaucoup de retard, ils se décrédibilisent vis-à-vis des éditeurs qui ont des délais, des plannings à respecter. Et puis, ils passent pour des emmerdeurs à la fin. Donc, moi, j'aime autant me dire, voilà, les planches sont faites, on revient pas dessus. Évidemment, s'il y a des grosses erreurs, si j'ai, je sais pas, moi, un personnage qui a trois jambes, j'en ai fait deux, je vais en rajouter, je vais revenir. Voilà,
c'est dans tout. Les Captains, ça peut être normal d'avoir trois jambes, attention.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, donc je n'ai pas eu cette problématique de me dire il faut que je refasse mes pages 10 ans après. Non, je disais que je vois des erreurs 10 ans après, je me dis ça aurait pu être mieux, mais.
Cela dit, la transition, elle ne se voit pas. Je pense qu'en tant que lecteur, on pourrait mettre au défi les gens qui le lisent de dire à quel moment la bande dessinée s'est arrêtée et à quel moment on l'a repris quelques années après. Au niveau du dessin, c'est fluide et il n'y a pas eu de changement de dessin. C'est-à-dire que Johan a repris son dessin du début des Captains et l'album se lit de manière fluide. Il y a même eu un changement de coloriste mais qui ne se voit pas non plus. Donc l'album est vraiment cohérent et c'est vrai que là, on est entre nous, on raconte la petite histoire de l'album, mais quelqu'un qui l'a acheté en librairie doit se dire il a été fait l'année dernière.
C'est bien voilà. Pour avoir les petites histoires qu'on est là.
Oui, c'est intéressant, mais ça ne se voit pas et c'est pas. Il n'y a rien qui permet de le savoir si on ne le sait pas en venant à une conférence utopiale, par exemple.
Et Johan, sur ta technique de travail, en fait, tu peux nous en parler un petit peu, parce que j'imagine qu'avec quelques albums derrière toi, cette technique a évolué, parce que. Le classique, le numérique et tout ça.
Ouais, non, maintenant moi je travaille de manière très très classique en fait. Je travaille pas du tout sur ordinateur. Les planches des Captains sont faites d'abord en noir et blanc. Je fais un storyboard à partir du scénario d'Olivier qui lui-même est une forme de storyboard déjà puisqu'il est dessiné. Si jamais vous avez l'occasion, il y a un album, un tirage luxe entre guillemets, mais qui coûte à peine plus cher que celui-ci, sur lequel vous avez un dossier avec les étapes de travail des Captains. Donc on voit le scénario d'Olivier, on voit le storyboard que je fais à partir du scénario, ensuite les pages de crayonné, donc réalisées au crayon de bois, et puis ensuite l'ancrage à l'encre de Chine, au pinceau, à la plume, au feutre. Moi, je viens de l'école des Beaux-Arts, j'ai un espèce de culte de l'original. J'aime avoir une planche originale en face de moi. J'aime voir l'endroit où l'auteur a fait des erreurs, où il a gommé, où il a collé un bout de papier dessus, où il a mis du blanco à tel endroit, où il a gratté ici. J'aime voir que la planche, elle a vécu. J'aime pas avoir quelque chose de lisse et de parfait, sans défaut. C'est pour ça que j'aime travailler encore sur du papier. En plus, du coup, si on me propose, je peux faire une exposition de mes planches. Donc, j'ai des planches originales et non pas des copies imprimées d'un truc fait sur ordinateur. Si jamais un collectionneur est intéressé, je peux vendre de temps en temps une planche. Ça me fait un petit peu de sous aussi. Et puis, au final, quand je serai plus là, ce sera le patrimoine que je léguerai à mes enfants. Donc, voilà. Pour moi, c'est important de travailler encore... à l'ancienne, entre guillemets. Mais du coup, j'ai un processus de travail très, très classique.
Et là, les planches font quel format, par exemple, sur les Captains?
Le format des Captains, c'est 30 sur 42. Donc c'est un grosso modo un
A3. Ton travail sur Spirou correspond sur le, c'est le, au niveau
c'est
technique.
Exactement c'est la même chose.
Le même processus.
Exactement le même processus. Ouais, ouais.
Et donc si d'ici quelques années ou peut-être l'année prochaine, tu ne vends pas de planches des Captains, on pourrait peut-être même envisager de voir une exposition des originaux aux Utopias. Ah
bah bien sûr, évidemment, sans
que
problème.
Là, du coup, tu es dans le sujet.
Je suis dans le sujet.
Le c'est latex. Ah non, c'est la SF.
L'année prochaine, c'est le corps.
En plus. Là, il y en a quelques-uns. Même dénudé.
Dénudé.
C'est juste pour attirer le chaland.
Ouais, ouais. Sauf quand c'est paru dans le journal de Spirou, donc parce que cette histoire-là est parue entièrement dans le journal de Spirou. Pour le journal de Spirou, donc, il y a un journal tout public, c'est-à-dire des enfants, des ados, des adultes jusqu'à 77 ans. On a dû rhabiller certaines femmes qui étaient au sauna pour pas avoir de problème avec la censure, et puis et gommer quelques gros mots aussi. Mais dans la version album, la censure n'y est pas.
Oui, j'avais pas remarqué la censure, effectivement. On sent, comme je me répète, mais on sent vraiment le plaisir des créateurs. J'en profite pour demander s'il y a quelques questions dans la salle, parce que quand on a deux punks de la bande dessinée nantaise à disposition, autant en profiter.
Bonjour.
Mais en fait, c'est vrai que des super-héros avec des pouvoirs aussi bizarres et étranges... Bah, ça fait un peu bizarre, mais moi j'adore aussi les super-héros, mais c'est vrai qu'il y a du bizarre et du classique. Mais en fait, est-ce que c'est vrai que... Est-ce que vous avez une chaîne YouTube au sujet de vos œuvres, tout ça, les Captains?
Non, on n'a pas de chaîne YouTube.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'en ce sujet-là, parce que je... Bizarrement, en fait, je suis un youtubeur. Avec un ami, on a fait une chaîne dont lui, il a commencé à peine de 3 ans. Il a commencé seul. La chaîne s'appelle... Actuellement, je sais que c'est un sujet un peu super-héros. Bah, Super David Hero, c'est un peu un sujet particulier. Moi, je suis là en tant que celui qui est à sa chaîne le plus important. Et en fait... On a dû, au fil des ans, même si ça a demandé des difficultés, faire des vidéos sur un peu sur nos personnages. On leur donne des fois des caractéristiques particulières, des trucs qui font ce qu'ils sont. Les méchants, est-ce que dans les méchants dans les Captains, ils ont des particularités bizarres ou ils sont des méchants stéréotypés?
Merci pour la question.
On s'interdit rien. Je pense que nous, on essaie de faire des méchants qui sont un peu bizarres aussi. Après, qu'est-ce que c'est un super méchant stéréotypé? J'en sais rien.
Un Captain Dollar, par exemple.
Captain Dollar, mais c'est
là
c'est
pour
pas,
le coup, ouais. Qui est quand même un personnage assez original, quand même.
Dans les Captains, donc à un moment donné, ils croisent un autre personnage qui est Captain Dollar. Et lui, il a pas vraiment de super pouvoir. C'est juste qu'il est pété de fric. Donc, il a...
Un certain Bruce W, que je ne citerai pas ici.
Bruce W, voilà, c'est ça. Et donc, lui, il a des gadgets, des machins qui lui donnent des pouvoirs, un armement qui lui permet de se revendiquer lui-même super-héros, sauf qu'il fait payer les gens qui sauvent. Voilà, donc c'est-à-dire que quand il y a un type, quelqu'un qui est en danger, une créature qui est en train de démolir un building, le directeur de la Cité des Congrès appelle, « Oh, Captain Dollar, une créature insectoïde est en train de démolir la Cité des Congrès !» Alors, Captain Dollar dit, « Ok, qu'est-ce que c'est insectoïde? D'accord, ok, quelle taille fait-elle? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité ?»
Il fait un devis,
et ensuite, si le devis est accepté, il intervient, il vient péter la tronche à la créature insectoïde, mais après, le directeur de la Cité des Congrès, donc il doit payer puisqu'il a signé le devis.
Il y a une facture.
Refait très bien le directeur de la Cité.
Voilà. Donc voilà, et là, du coup, on s'inspire effectivement d'un personnage comme ce Bruce W, que je ne citerai pas, mais sauf que lui, au lieu d'intervenir pour la beauté du geste et puis le maintien de la justice, il fait un devis et puis il se fait payer comme un petit artisan. Voilà.
Il est décomplexé, un super héros néolibéral.
Voilà, donc finalement, ce qu'on peut appeler méchant en termes de,
c'est le néolibéral.
On peut trouver des super héros. La méchanceté peut se loger de manière un peu différente. Donc en ce sens, on a essayé d'être originaux et de proposer des choses un peu nouvelles. Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres super héros dans la salle qui voudraient poser des questions?
Des super questions.
Alors en attendant, est-ce que vous pourriez nous parler de vos projets respectifs pour savoir à quel tournant on doit vous attendre?
Olivier, vas-y.
Alors, donc, moi, ça fait 3 ans. Alors, on parlait tout à l'heure de Fluide Glacial. Donc, là, moi, ça fait 3 ans que je fais des strips dans Fluide Glacial, des strips en noir et blanc. Alors, c'est marrant parce que l'histoire se répète parce qu'en ce moment, Fluide Glacial a été racheté par une nouvelle maison d'édition. Et effectivement, je pense qu'il y a des auteurs qui ne se sentent plus tout à fait chez Fluide Glacial. Donc, on va peut-être avoir un nouveau magazine qui va se créer au Lombard ou ailleurs, je ne sais pas. Mais en fait, voilà. Bon, donc, je fais des strips pour Fluide Glacial et je me dis que ce serait peut-être le moment d'en faire un recueil. Donc, pas forcément aux éditions Audi parce qu'ils ne font plus beaucoup d'albums chez Fluide, mais peut-être un autre éditeur. Donc, je vais voir. Je suis en train de réfléchir à ça, de faire un recueil de mes strips paru dans Fluide Glacial. Et puis sinon, je me tâte pour faire la suite d'une bande dessinée qu'on trouve qui s'appelle Marv et Johnny. Donc pareil, des histoires. C'est l'histoire d'un bagarreur et de son poulet. Voilà, c'est deux amis pour la vie qui ont des aventures. Et donc il y a un premier tome qui est sorti chez Les Requins Marteaux. Et je me dis, voilà, parce qu'il aime beaucoup son poulet. Donc effectivement, zoophile, c'est ouais, l'amour des animaux. Et je me dis, c'est peut-être le moment de faire un tome 2 de Marv et Johnny. Pour promouvoir l'amitié entre les hommes et les poulets.
Voilà. Moi, je sors au mois de décembre un nouvel album de Toto l'Ornithorynque, donc une bande dessinée pour les enfants qui parle des animaux d'Australie, donc dont les personnages principaux sont un ornithorynque, un koala, un écureuil volant, etc. etc. Et comme on fête les 20 ans de cette série, on sort donc ce nouvel album qui sera enrichi d'illustrations. Pour les 20 ans, j'ai demandé à mes copains dessinateurs célèbres de faire des dessins sur le thème de Toto l'Ornithorynque. Et à ma grande surprise, beaucoup ont accepté. Ils ont dû croire que c'était payé. Et donc, on a une galerie de personnages réalisés par les plus grands auteurs de notre époque. Marigny, Olivier Texier, Loisel, Olivier Texier, Louis Trondheim, Olivier Texier.
Anki Bilal,
Olivier Texier. Et plein d'autres. Et puis, on prépare aussi avec Fabien Vellman de nouvelles aventures pour Spirou et Fantasio, bien entendu. Mais on va créer une nouvelle série un petit peu dérivée de Spirou et Fantasio et qui n'est pas sans rapport avec les Captains.
Est-ce que je sais que dans le Vaucluse, il y a un projet de parc Spirou ?
Ouais.
Et est-ce que tu es impliqué ? Est-ce que tu as été sollicité pour des designs ou des choses comme ça, par exemple ?
Alors, pas du tout. On sait que ce projet existe effectivement, mais nous en tant qu'auteurs on n'a pas été sollicités. On sait cependant que pour construire certains décors du parc Spirou, ils ont utilisé certains de nos designs dans certains albums, notamment celui avec Zorglub qui se passe sur la Lune, la face cachée du Z. Ils ont réutilisé des designs de bases lunaires pour faire des attractions, etc. Et des idées qu'on avait eues d'ailleurs d'attractions, puisque ça se passe dans un parc d'attractions sur la Lune. Maintenant, est-ce qu'on sera même invité à l'inauguration ? Je n'en sais rien. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Et j'imagine, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour. C'était pour rebondir sur le parc. Je suis passé encore il y a 6 mois et il y a un magnifique parc d'attractions aquatique, ouais. Mais pas de Spirou. Hein.
Non, bien sûr, ils ont posé la première pierre il y a un mois, je crois.
Ou ah oui, d'accord, parce que ça a été repoussé pendant des années.
C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le projet a démarré il y a plusieurs années, mais puis il y a eu des problèmes de financement à cause de crise, etc., etc. Et puis d'investisseurs qui se sont retirés, il a fallu rechercher de nouveau. Enfin bref, voilà. Mais finalement, ça se fait.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes investisseurs justement que Aquasplash à côté, parce qu'Aquasplash, manifestement, ce n'est pas pareil. Oui. Ouais. Mais Spirou, c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir ça. Ouais.
Bah pourquoi pas ?
La première a été posée alors, du coup.
Ouais, apparemment. Bon, ouais.
Entre la première
pierre entre la première pierre et, la première, et le premier billet d'entrée.
Ça va être... Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier... ce fort agréable moment passé en votre compagnie, parce que je me répète, mais effectivement, votre plaisir est distillé dans chaque page de cette bande dessinée, et j'espère que vous vous régalerez autant que les auteurs.
Merci Gilles, merci beaucoup à tous, merci Olivier.
Merci.